Ondes Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Ondes Femmes. Ondes Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney. Et aujourd'hui, beaucoup de monde réuni autour de la table du studio, puisque nous accueillons en direct Viviane Gonick et moi-même, Lucienne Gillot et Ivana Lambercy, pour venir nous parler de la campagne nationale contre la violence conjugale lancée hier dans toute la Suisse et qui nécessite beaucoup d'explications parce que ce sujet n'est guère reconnu aujourd'hui en Suisse et dans le monde. Alors en Suisse, on dit qu'une femme sur cinq est violentée au cours de sa vie par son mari ou son compagnon. La violence d'un homme à l'égard d'une femme est quotidienne et ses abus, malgré leur ampleur, sont relégués dans l'ombre de la vie privée et ou se perpétuent dans l'indifférence générale. Alors pour la première fois en Suisse, une campagne d'information nationale de grande ampleur a lieu dans tout le pays. Elle est organisée par la Conférence nationale des délégués à l'égard. Et cette campagne qui va expliquer et dénoncer vigoureusement le phénomène social de la violence conjugale aura lieu donc du 6 mai, hier, jusqu'au 6 juillet, deux mois. Deux mois pendant lesquels de nombreuses choses seront organisées et aussi deux mois pendant lesquels on profitera à la fois d'expliquer aux gens ce qui se passe, le phénomène, à la fois de donner des informations aux femmes victimes de violences, à la fois toute une campagne de publicité, télévision, transport public, radio, cinéma, etc., affichage, dépliants journaux, du cinéma, enfin bref, des rencontres, des conférences, tout ça dont nos deux invités, Lucienne Gillot et Ivana Lambercy, vont nous parler tout au long de cette émission. Beaucoup de choses à dire durant cette émission, j'espère, parce que je crois bien que le sujet en une heure et demie, hélas, même si on a beaucoup de temps comparé peut-être sur d'autres radios, sera difficilement épuisable. Nous avons de la chance parce que Lucienne Gillot se trouve vraiment au cœur de ce sujet. Lucienne, à quel titre ? Au niveau national, parce que tu as participé à une étude très importante, oui, effectuée pour la première fois en Suisse et on dirait même en Europe sur cette question-là.
La deuxième fois en Europe.
Voilà. Et puis parce que naturellement, tu fais partie du Bureau de l'égalité entre hommes et femmes et donc à ce titre, tu connais aussi ce qui va se passer à Genève. Voilà. Et toi, Ivana, alors c'est la question genevoise plutôt.
Oui, alors moi je me suis surtout centrée sur tout ce qui concerne les événements qui vont se produire sur Genève.
Voilà. Alors on va bien sûr commencer par se poser la question de savoir mais pourquoi cette campagne est lancée maintenant. Il y a de nombreuses associations de femmes qui ont malgré tout, en Suisse quand même, posé la question de la violence conjugale ou des violences contre les femmes depuis un certain temps déjà. Ça existe. Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'on lance une telle campagne, Lucienne ? Est-ce que c'est en lien avec la sortie de l'étude auquel tu as participé ?
Oui, alors effectivement, les deux choses sont liées. Nous avons fait avec deux collègues une étude dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique sur la violence faite aux femmes dans le couple. Les résultats sont sortis en octobre de l'année passée et lorsqu'on a vu l'ampleur de ces résultats, la conférence des délégués à l'égalité de Suisse a décidé d'accompagner au fond ce rapport, de poursuivre au plan pratique les résultats de ce rapport en sensibilisant la population au problème de la violence conjugale.
Alors, bon, c'est un moment important d'enfin parler de ce problème. Les réactions aujourd'hui dans les journaux, donc vous avez fait hier à Berne une conférence de presse, entre autres patronnée par Ruth Dreyfus. Les réactions sont très diverses et il apparaît tout de suite, enfin, on a deux journaux sous les yeux, c'est le Courrier de Genève et le Journal de Genève. Dans tous les deux, il y a des réactions d'allergie, on pourrait dire, quasiment au sujet, reconnaissant pas l'importance de ce sujet. Les uns, c'est le cas du Courrier, disons, mais il y a aussi des hommes battus. Et puis, dans l'autre, c'est le Journal de Genève, on mélange tout, on confond la violence économique dont sont victimes les femmes, etc. Visiblement, une énorme difficulté à reconnaître aujourd'hui la gravité, l'ampleur de la violence conjugale contre les femmes due à la domination masculine.
Oui, je crois que ce n'est pas nouveau. Hein. La violence des groupes dominés a toujours beaucoup de peine à se faire reconnaître, alors que la violence qui est faite aux groupes dominants, en général, est tout de suite dénoncée et sanctionnée. Ça, je veux dire, c'est une vieille loi sociologique. Donc, il n'est pas très étonnant, au fond, qu'en dénonçant la violence qui est faite aux femmes à un groupe dominé, ça appelle tout de suite la réaction du groupe des dominants. De ce point de vue-là, je ne suis pas très, très étonnée.
Mais pourtant, c'est vrai qu'autour de cette problématique de la violence dans le couple, il y a énormément d'idées reçues, de stéréotypes. On dit que les femmes, quelque part, elles cherchent ça, ou qu'en tout cas, elles ne se défendent pas, que finalement, elles sont aussi, elles sont victimes peut-être, mais aussi coupables déjà de rester, d'aimer un homme qui les bat.
Ou bien que c'est seulement dans les milieux ultra défavorisés, dans l'immigration, quand de toute façon la femme est réduite à moins que rien. Enfin bref, il y a effectivement, d'ailleurs vous en parlez, vraiment des grosses idées reçues sur la question,
oui.
Ivana.
Alors justement, on a décidé de reprendre ces idées dont vous parlez, qui sont des idées reçues et que nous on qualifie même de mythes, parce que c'est quand même pour nous qui avons un petit peu étudié le sujet, c'est un peu gros comme une montagne et c'est difficilement acceptable. Mais malheureusement, c'est l'opinion la plus répandue dans l'esprit de beaucoup de monde, de dire que finalement ces femmes, ma foi, elles l'ont cherché quelque part, et que si c'était si terrible, elles n'ont qu'à partir finalement. Évidemment, alors nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait sensibiliser l'opinion sur ces idées et rétablir un petit peu quelque part la réalité. Donc, on a décidé de faire paraître dans la presse, donc ça va paraître la semaine prochaine dans les quotidiens genevois, des espèces de petits encarts qui iront par trois dans un seul journal. Et chaque petit encart dénoncera un des mythes que vous avez énumérés. On en a sélectionné 9, mais il y en a beaucoup plus que ça.
Alors, raconte-nous, par exemple.
Par exemple, bon, ce que vous avez dit, si la femme n'a qu'à partir, alors on va dire faux, c'est faux. Il y a des freins qui empêchent les femmes de partir. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Tout d'abord, des freins économiques, finalement. Pour partir, il faut en avoir les moyens. Il faut savoir où aller, il faut avoir de quoi se payer un logement. Il y a aussi les freins affectifs. Il y a bien souvent des enfants qui sont en jeu. Et quitter le domicile avec ses enfants sous le bras, c'est vraiment une démarche qui est très difficile à faire. Et puis partir pour aller où ? Donc c'est... Et puis, il y a aussi un frein, si tu pars, je te tue. C'est aussi des choses qui... Bon, c'est très extrême, hein, mais on a déjà entendu ou lu des témoignages qui relataient ce genre d'action. Donc, c'est très, très délicat et c'est très, très difficile de partir. Il faut toujours respecter les décisions de ces femmes qui ont vraiment beaucoup de mal à prendre le dessus, parce qu'elles ont été bien souvent pas mal détruites à l'intérieur d'elles-mêmes et de leur confiance en elles.
Où elles croient qu'elles vont pouvoir améliorer, parce qu'il y a l'enjeu affectif toujours, non ? Bien sûr, le couple, c'est une histoire à l'origine censée être d'amour, donc il y a toujours l'idée, peut-être ça va changer avec les allers-retours des uns et des autres.
Exactement.
Bon, il faut peut-être dire aussi comment la violence conjugale se passe. Hein. Il y a le cycle de la violence qui a été décrit, c'est-à-dire qu'il y a une montée des tensions, ensuite la violence éclate, et après, souvent, il y a un relâchement de la tension, et l'homme regrette ce qu'il a fait. Donc à ce moment-là, il devient très gentil, très tendre, il ramène éventuellement des cadeaux à sa femme, il lui promet que c'est la dernière fois, que ça ne recommencera plus, etc. Et au fond, la femme se laisse parfois un peu attendrir par ces marques de regret et se dit, bon, eh bien, cette fois vraiment, ça va être fini. Et elle repart pour quelques mois et en général, ça recommence. C'est bien connu que la violence conjugale ne s'arrête pas comme cela. Mais peut-être pour enchaîner avec ce qu'on disait sur le mythe, elle a qu'à partir. Je crois que c'est une des choses qui est le moins bien comprise du public. Très souvent, effectivement, on entend dire « elle a qu'à partir » et les gens ne se rendent pas du tout compte concrètement ce que ça veut dire. Et je crois qu'il faut dire haut et fort, et notre enquête l'a montré, c'est une chose extrêmement difficile de partir du foyer conjugal quand on est une femme battue ou une femme frappée. C'est vraiment pas facile, il faut un très grand courage, il faut beaucoup de persévérance et c'est vraiment pas évident. Donc on voulait aussi au cours de cette campagne dénoncer ce slogan « elles ont qu'à partir » ou encore le mythe qui dit « mais si elles restent, c'est qu'elles aiment ça ». En fait, les femmes n'aiment pas la violence, elles aiment éventuellement leur mari, mais la violence, en aucun cas, elles l'aiment. Et pourtant, des études au Canada ont montré que c'est un des mythes parmi la police qui est le plus répandu. Elles aiment être violentes et si elles restent, c'est bien qu'elles aiment cela. Mmh. Donc, c'est un préjugé qui est loin d'avoir disparu.
Donc, on voit là le cercle vicieux. On reste parce qu'on
aime ça.
On ne peut pas partir. Ouais. Donc, si on reste, c'est qu'on aime ça. Et si on aime ça, ben, c'est normal, en quelque sorte.
Mais en plus, il y a quelque chose de frappant. C'est qu'on dit toujours, elle n'a qu'à partir. Or, elle est victime de violence. Pourquoi ce serait elle qui devrait partir?
Exactement.
Peut-être autre question qu'on pourrait
Absolument.
Se poser.
Absolument. On pourrait se demander si ce n'est pas l'homme qui devrait partir ou si ce n'est pas la police qui devrait arrêter l'homme. Mais bon, alors là, ça nous lance aussi sur un autre sujet qui est le rôle de la société qui a le devoir de protéger les individus. Hein. L'État doit garantir la sécurité de ses citoyens et citoyennes, que ce soit sur la rue ou que ce soit dans les foyers, c'est la même chose. Et en fait, on voit que souvent, la police ou la justice ne remplissent pas vraiment leur rôle. En général, qu'est-ce qui se passe quand une femme appelle la police pour cause de violence? La police vient, souvent l'homme, lorsqu'il voit le policier, se calme, voire même fait passer sa femme pour un peu hystérique et folle. Et bon, l'homme dit que tout va bien maintenant, et le policier est tout à fait rassuré et repart, et ne fait rien d'autre. Et la femme se retrouve face à ce problème-là. Donc là aussi, je crois qu'il y a un problème important.
Au niveau de la justice aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Parce que même si ça va plus loin, il n'y a pas nécessairement de suite grave pour le vieux... pour l'homme violent.
Alors peut-être je pourrais vous parler d'une femme qui a appelé ce matin au bureau de l'égalité et qui m'a raconté ce qui lui était arrivé et qui a commencé, c'est Ivana qui a eu le téléphone et elle a commencé en disant cette campagne tombe à pic. Mmh. Et ensuite elle nous a un peu raconté ce qui lui est arrivé, comme ça il illustre un peu, c'est un peu emblématique de ce qui se passe avec la justice, je vais vous le raconter. C'est une femme qui a vécu pendant 10 ans de la violence conjugale et elle, non seulement elle mais son enfant aussi était frappé au point qu'il a dû être suivi par un pédopsychiatre. Cette femme, à un moment donné, s'est décidée à déposer une plainte. Elle avait des preuves en main, elle avait un certificat médical qui témoignait d'hématomes sur la tête, sur le dos. L'Office de protection de la jeunesse aussi était venu dire que l'enfant était traumatisé parce qu'il était frappé. Donc elle avait en main des éléments pour rendre crédible ce qu'elle avait à faire valoir. Et elle m'a raconté que lors du procès, l'avocat de son mari a plaidé pour dire qu'en fait le certificat médical ne valait rien parce que cette femme s'était auto-mutilée elle-même, elle s'était infligée des blessures pour se venger de son mari. Parce qu'elle en voulait et les femmes étant très revanchardes, comme tout le monde le sait, elle s'était auto-mutilée pour cela. Et le procès est arrivé et les juges ont innocenté le mari en disant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner. Et au fond, cette femme était extrêmement blessée de ne pas être reconnue dans son droit par la justice. Et je voudrais juste dire 2 mots sur l'importance de cette reconnaissance par la société, par l'entourage. On dit souvent... les victimes doivent quitter la position de victime. C'est vrai qu'on peut se complaire aussi dans une position de victime, mais je crois que pour pouvoir sortir de cette position de victime, il faut d'abord que quelqu'un à l'extérieur, et si possible quelqu'un qui ait de l'autorité, comme un juge ou un policier, puisse dire « oui, c'est injuste ce que vous avez vécu, cela ne doit pas exister ». Et cette femme, au fond, s'est retrouvée seule face à elle-même, avec une société qui ne reconnaît pas, au fond, le tort qui lui a été fait. Et elle me disait ce matin qu'elle avait envie d'écrire un livre parce que ce serait la seule façon pour elle, au fond, de faire savoir qu'elle a été victime d'une double injustice. Je dirais qu'elle a été victimisée une deuxième fois parce que non seulement elle a été agressée par son mari, mais en plus, la justice ne lui rend pas justice.
Et donc ça vient de se passer en Suisse.
Il y a 10 jours, le procès a eu lieu.
Où ça?
À Genève.
À Genève. Bon, eh bien,
on saura quelle justice viser.
On voit qu'effectivement, cette campagne peut avoir un effet non seulement sur la population, mais aussi sur les institutions, et qu'on espère qu'elle aura ce retentissement et qu'il y aura toute une réflexion au niveau des institutions, et peut-être même au niveau des lois, et on en parlera peut-être un peu plus tard, comment cette campagne peut porter des fruits. Mais j'aimerais revenir, Lucienne, un peu à la situation en Suisse que tu as étudiée. Tu parles de chiffres de violence assez monstrueux. Comment est-ce que tu as pu faire cette enquête ?
Alors, nous avons procédé comme suit. Nous avons tout d'abord interrogé par téléphone, au moyen d'une enquête téléphonique, 1500 femmes âgées de 20 à 60 ans dans toute la Suisse, à l'exception du Tessin. Et nous avions un questionnaire très précis qui posait toute une série de questions sur le couple, notamment le partage du travail dans le couple, les problèmes du couple. Et finalement, nous arrivions à un certain nombre de questions sur les violences qu'elles pouvaient subir. Nous avons pris beaucoup de précautions pour amener ces questions, parce qu'évidemment, si d'entrée de jeu, hein, on demande à quelqu'un « est-ce que votre mari vous bat ?», cette personne aura une certaine peine à répondre. Donc nous avons pris beaucoup de précautions pour dire « dans tout couple, il y a des problèmes, les choses ne sont pas toujours faciles, etc. Comment ça se passe dans votre couple ?» En posant des questions moins fortes, si vous voulez, du style « est-ce que votre mari vous dévalorise ? Est-ce que votre mari vous critique ?» etc. Et puis ensuite, nous avons repris d'une enquête américaine une échelle de violence qui pose toute une série de questions du genre, est-ce que votre mari vous pousse, vous empoigne, vous bouscule, est-ce qu'il vous frappe, est-ce qu'il vous bat, et ça va jusqu'à des actes de plus en plus graves, est-ce qu'il a essayé de vous étrangler, est-ce qu'il vous a menacé avec une arme, est-ce qu'il a utilisé une arme pour vous frapper, pour vous agresser. Ça, si vous voulez, c'est la première partie de notre étude, qui est donc une enquête quantitative sur 1500 femmes et dont l'ambition était d'arriver à chiffrer la violence conjugale, à dire quelle était la proportion de femmes touchées par la violence conjugale. Et puis dans
Et là, vous arrivez à quel chiffre ?
Alors, on arrive à une femme sur 5, 20% de la population qui, au cours de sa vie, a été victime de violences physiques ou sexuelles. Et si l'on considère la violence psychologique, ça fait 2 femmes sur 5 qui, au cours de leur vie, ont été confrontées à de la violence psychologique.
Encore une chose, Lucienne, quand on fait des sondages comme ça, c'est vrai qu'on choisit toujours, comme on dit au niveau scientifique, un échantillon de femmes. Comment vous avez distribué ces questionnaires ? Parce que pour des questions aussi sensibles que la question de la violence conjugale, on peut se dire, mais si on distribue n'importe comment, n'importe où, en regardant simplement les âges, le sexe, les milieux sociaux, enfin, les choix classiques des recherches de ce genre, est-ce que vraiment on peut faire ça comme ça ? Enfin, c'est de la même façon que n'importe quelle autre recherche.
Oui, alors l'exigence était d'avoir un échantillon représentatif, c'est-à-dire de pouvoir, à partir de l'échantillon que nous avions, extrapoler, c'est-à-dire dire ce petit échantillon reflète ce qui se passe en Suisse. Donc là, il y a des conditions scientifiques très précises pour pouvoir affirmer que l'échantillon est représentatif. En général, le tirage doit se faire au hasard, ce qui a été fait. Donc nous avons confié cette phase à un institut de recherche qui s'appelle IPSO et qui a tiré au hasard 1500 femmes à partir d'un bottin de téléphone électronique. Nous avons aussi pris soin d'avoir des quotas, c'est-à-dire que des tranches d'âge soient représentées pour qu'il n'y ait pas une surreprésentation de femmes trop jeunes ou trop âgées. Et puis nous avions aussi des quotas de région. Il fallait à peu près que nous ayons environ 1100 femmes de Suisse alémanique et environ 400 femmes de Suisse romande.
Pourquoi pas le Tessin ?
Alors, pour des questions simplement de pratique, ça veut dire qu'il fallait faire un questionnaire en italien, il fallait traduire le questionnaire et il fallait aussi trouver des enquêtrices qui parlent italien. Nous avions une somme limitée à disposition et c'était pour des raisons d'économie.
Ok, alors tu disais une deuxième étape.
Alors, une deuxième partie, une deuxième étape qui a consisté en une trentaine d'entretiens approfondis avec des femmes victimes de violences. Il faut voir que dans le questionnaire de la première partie, nous posions les questions et les femmes n'avaient pas tellement de latitude. Elles répondaient par oui ou par non, ou par un peu, beaucoup, etc. Alors que nous voulions donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent dire, avec leurs mots à elles, leur réalité de femmes violentées. Et donc pour cela, nous avons fait des entretiens qui ont duré entre 1h30, 2h, 2h30, que nous avons enregistrés. Et là, les femmes pouvaient s'exprimer sur ce qu'elles vivaient, sur les conséquences des actes qu'elles avaient subis, sur ce qu'elles faisaient pour tenter d'y échapper, est-ce qu'elles avaient envisagé de partir ou pas, etc. Et l'enquête donc est formée de ces deux grandes parties.
Et ces rendez-vous-là, ces moments de discussion, vous ont permis d'affiner quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous recherchiez par ce contact plus approfondi, par opposition à simplement l'enquête quantitative ?
Alors, on cherchait à savoir déjà, premièrement, je dirais, ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles vivaient à travers la violence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça leur faisait, la violence ? Est-ce qu'elles vivaient dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité ? Nous avons essayé d'explorer tous ces sentiments-là. Et puis, nous voulions aussi avoir des détails sur la violence, et notamment la violence psychologique. Qu'est-ce qu'elles enduraient ? Qu'est-ce qu'on leur faisait ? Et là, par exemple, on a eu des choses qu'on n'aurait jamais pu obtenir dans l'enquête quantitative, où on reste à des grandes catégories, par exemple. Là, une femme, par exemple, nous racontait que son mari lui demandait de s'agenouiller pour lui demander pardon. Donc, une humiliation qui va jusqu'au physique. Elle devait se mettre à genoux. Évidemment que dans une enquête quantitative, on ne peut pas avoir des choses si fines et si précises. D'autres nous ont raconté que leur mari les empêchait de dormir, par exemple. Ils leur font subir des sortes de tortures. Est-ce que je pense qu'on peut appeler ça torture ? Ou ils les réveillent quand elles dorment, parce qu'ils ont estimé qu'elles n'avaient pas à dormir. Ou encore, on leur interdit de regarder la télévision parce que le mari a décidé que sa femme n'avait pas ce soir-là à regarder la télévision, etc. Donc là, on a obtenu une foule de renseignements très concrets, très précis, que nous n'avions pas à travers la première partie de l'enquête, qui en reste à des grandes catégories générales.
Mais justement, la violence psychologique... Disons, dit comme ça, bon, quand tu en donnes l'exemple, on voit bien effectivement que c'est plus que le contenu de ça, parce que sinon ça peut être un peu un fourre-tout. On dit souvent que dans les couples, il y a énormément de choses qui se passent et qui vont des deux côtés. Là, c'est vrai que quand on parle de violence psychologique, on pourrait dire ça se passe des deux côtés, des hommes et des femmes. Et toi, tu as l'air de dire non, c'est vraiment une des manières d'exercer la domination masculine. Et c'est vrai que les exemples que tu nous donne, c'est vraiment presque de la torture.
Oui. Bon, ce qu'on peut aussi dire, je crois, à propos de la violence psychologique, c'est que souvent elle n'est pas reconnue comme telle par les femmes. Hein. On assimile violence et coups, et les femmes elles-mêmes n'ont pas l'idée de mettre le terme violence psychologique. Elles disent « il m'a insultée », mais souvent elles ne disent pas « il a usé de violence envers moi ». Alors, ce que nous avons fait dans l'enquête quantitative, effectivement, il fallait que nous soyons assez sûrs de ce que nous allions mesurer. Hein. C'est aussi une exigence scientifique de ne pas mettre tout et n'importe quoi. Et peu d'études ont étudié la violence psychologique, précisément parce que c'est difficile à étudier et ce n'est pas toujours quelque chose d'équivoque. Par exemple, une humiliation, hein, quelqu'un qui est hypersensible, peut sentir humilié par quelque chose de peu grave, à la limite, on pourrait dire. Et puis l'humiliation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut aller jusqu'à faire s'agenouiller quelqu'un. Donc demander à quelqu'un « est-ce qu'on vous a humilié ?» ça pouvait donner des choses extrêmement différentes. Et là, je dois dire que personnellement, je tenais à ce qu'on ait une grande rigueur pour qu'on ne puisse pas nous dire « mais vous mettez n'importe quoi sous violence psychologique, c'est pas étonnant que vous ayez des chiffres comme vous en avez. » Donc dans l'enquête quantitative, nous n'avons pris que ce qui était vraiment assez spectaculaire, c'est-à-dire des insultes et des injures, des menaces de frapper ou de tuer, le fait de casser des objets. Ça aussi, c'est une façon d'intimider la femme. jette des objets contre le mur. Et c'est une façon indirecte de lui dire, la prochaine fois, c'est toi qui peux être visé. Et puis, nous avions donc pris aussi le fait d'être enfermés à l'extérieur de la maison. Dans un certain nombre de cas, les hommes empêchent les femmes de sortir ou de rentrer. Donc, volontairement, dans l'enquête quantitative, nous avons pris des choses fortes, évidentes, qui ne supportent pas la contestation. En revanche, dans l'enquête qualitative, on a pu aller vers des formes beaucoup plus fines de violences psychologiques. Par exemple, les humiliations, le rabaissement ou les atteintes à l'autonomie, par exemple, comme je vous et dit tout à l'heure, le fait d'empêcher quelqu'un de lire, c'est une atteinte à l'autonomie. Là, les femmes nous ont déclaré tout un ensemble de comportements et nous avons pu voir que c'était des... Donc là, nous avons créé une catégorie atteinte à l'autonomie que nous n'avions pas utilisée dans l'enquête quantitative.
Lucienne, au vu des résultats que vous avez obtenus dans cette enquête, est-ce que ce qui se passe en Suisse au niveau de la violence conjugale est très différent de ce que vous saviez certainement par les enquêtes autres qui ont été faites dans les autres pays, soit d'Europe, soit plus généralement dans le monde.
Non, alors ce n'est pas différent. Je veux dire, c'est bien connu maintenant quand même. Depuis les années 70, on a commencé à étudier cette question. Auparavant, on n'en parlait pas. On a commencé à étudier cela et on a vu que contrairement au mythe, encore un mythe, de la violence rare, marginale, limitée au milieu défavorisé, on a vu que la violence était quelque chose de très répandu. Et cela dans tous les pays où on a fait des études, on en a fait au Canada, aux États-Unis, en Hollande et dans d'autres pays. Et on a vu que la violence est largement répandue. Alors nos chiffres pour la Suisse sont un peu plus faibles, c'est vrai, que pour les autres pays. Et là se pose la question, est-ce que vraiment il y a moins de violence en Suisse ou est-ce que les femmes en parlent moins? Bon, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Personnellement, je pense qu'il y a des deux. Je pense que comme le thème est peu traité en Suisse, les femmes se gênent encore d'en parler. Donc, on a certainement eu beaucoup de sous-déclarations dans notre enquête. Tout le monde n'a pas déclaré la violence. Mais par ailleurs, il se peut aussi que par rapport à une société comme la société américaine, par exemple, qui est quand même beaucoup plus violente que la société suisse, il y ait effectivement un peu moins de violence.
Alors, j'aimerais bien que tout à l'heure, on revienne un petit peu à certains de ces mythes, parce que ça nous permet de découvrir aussi d'autres choses qu'on ignore à propos de la violence conjugale et aussi comment la société est remise en cause en elle-même par cette violence conjugale.
Les âmes sont chambrées. Confia.
crie le mal dans l'univers. Lève-toi, ma sœur malade. Danse ronde, aie confiance.